En 2000, la production mondiale de vêtements était estimée à 50 milliards de pièces. En 2018, elle a presque triplé pour atteindre 140 milliards. Nous achetons 4 fois plus de vêtements qu'en 1980. Une minorité de ces produits sont conçus en prenant compte les impacts sur l'environnement. La plupart sont fabriqués dans des pays ne disposant pas de réglementation. Même si certaines normes existent, il n'y a pas de moyen de contrôle efficace. Conséquence, les émissions de polluants augmentent de manière exponentielle chaque année. Le rapport du Danish Fashion Institute a établi en 2017 des projections alarmantes sur l'empreinte environnementale de l'industrie de la mode d'ici à 2030. Cette citation est issue du livre « Une mode éthique est-elle possible ?» de Majoulins Bay aux éditions Rue de l'Échiquier. J'ai choisi de commencer par ces quelques chiffres alarmants parce que, pour une fois, nous avons de quoi réagir. Notre pouvoir d'achat. Personne ne vous oblige à acheter un sweat ou un jean fabriqué par une entreprise de fast fashion. La fast fashion, c'est comme le fast food mais pour les vêtements. Des trucs vite faits qui ne sont ni bons pour la santé ni pour l'environnement. Ça vend souvent de pair, me direz-vous. Bref, personne ne vous y oblige, disais-je, bien qu'Instagram et sa dictature du cool aient tendance à lancer des modes et imposer des codes beauté. Il faut être déjà bien accroché pour ne pas se faire happer, sans parler de la publicité qui joue toujours un rôle dans ce business. C'est un sacré cercle vicieux qui est en place, une grosse machine bien huilée. Mais la société civile a commencé à faire bouger les choses, ici ou en Asie par exemple. Et chez nous, très localement, on a pensé à créer un cercle vertueux cette fois, récupérer des vêtements de celles et ceux qui en avaient marre de les voir dans leurs armoires pour les revendre ensuite et faire de nouveaux heureux ou de nouvelles heureuses. Un Vinted local quoi. Pour les non-initiés, Vinted, c'est une application mobile pour revendre ses vêtements, une sorte d'eBay sans enchères ou de Le Bon Coin moderne, plutôt axé sur la fringue. Cécile Chassagne-Barada a lancé son concept il y a quelques années maintenant et s'apprête à redémarrer à l'aune du déconfinement. Elle va nous expliquer tout ça, mais comme tout bon interview post-confinade, on a évoqué ses 55 jours enfermés et Sissou, eh bien, elle a adoré.
Oui, j'ai adoré, parce que c'était paisible. J'ai la chance d'avoir une maison avec un jardin à la campagne. Voilà, j'étais avec toute ma famille, mes enfants, c'était super. On a profité d'être ensemble, chose qui arrive rarement parce que mes enfants sont grands. Mais comme personne ne travaillait, on s'est tous retrouvés ici, dans la maison familiale. On a passé des bons moments, vraiment.
Bon, t'as eu le confinement heureux et t'as commencé à préparer de nouveaux projets pour le monde d'après.
Oui, voilà, alors je me suis dit, toutes ces dames qui sont chez elles... à peut-être ranger leur maison, faire leur jardin, enfin, se poser plein de questions, s'occuper d'elles, tout ça. Je me suis dit, c'est le moment. Elles vont sûrement vider leurs armoires, faire du tri. Donc, il faut que je me prépare à les accueillir, toutes ces fringues qui vont être déconfinées. Donc, voilà, j'ai lancé un petit appel à mon mailing, enfin, à mes clientes habituelles. Et il y en a pas mal qui ont répondu présente. Et donc, je commence dès maintenant à récupérer les vêtements. Donc, toujours le même principe. Ça sera du dépôt-vente éphémère sur une soirée. Et ça se déroulera à Micromega, la brasserie Micromega à Saint-Sever, le 19 juin, à partir de 18h.
On est parti un peu bille en tête dans la soirée sans trop expliquer. Reprenons. Pourquoi ces dépôts-ventes éphémères? Et puis, avant toute chose, ça date de quand cette histoire?
Alors, depuis quand? Je pense que ça doit faire 5-6 ans. Moi, j'ai toujours aimé chiner les fringues. Je me suis toujours habillée avec des fringues d'occasion, tout ça. Et j'avais un ami, Patrick de Mont-de-Marsan, qui tenait la cave à l'époque, qui avait envie de créer une boutique avec plein de petits intervenants. Et on en avait discuté un soir entre nous et je lui avais dit « Mais moi, ça me brancherait de venir un peu faire de la fripe ». Donc à l'époque, je chinais un peu plus tôt. Je chinais moi-même les fringues et je les revendais. Voilà, et puis le magasin à la cave s'est arrêté et moi j'ai eu envie de continuer en éphémère. Je ne voulais pas revenir dans une boutique. Et du coup, c'était compliqué pour moi de chiner, de stocker, tout ça. J'avais plus trop le temps, plus trop l'espace. Donc je suis partie plutôt sur l'idée du dépôt-vente. Donc voilà, donc j'ai commencé avec mes copines autour de Saint-Sever. Et puis le bouche à oreille a fait effet. Et j'ai eu pas mal de clientes qui sont venues à mon premier événement, qui était à Deschedise, je crois bien. Voilà, après j'en ai fait plusieurs sur Saint-Sauvet. Voilà. Donc là, ce sera du dépôt-vente. Maintenant, je reste là-dessus, sur du dépôt-vente éphémère.
Et au final, tu étais un peu précurseuse, parce que c'est un truc qui s'inscrit de plus en plus dans les pratiques de consommation des vêtements.
Oui, tout à fait. Je pense que maintenant, les nanas se rendent compte que la surconsommation de fringues neuves, de fringues made in China et autres, c'est plus trop la bonne marche à suivre, quoi. Je pense qu'il faut réutiliser les ressources que l'on a déjà, et ça ne peut être que bénéfique financièrement, écologiquement. Voilà, je pense que maintenant ça s'inscrit dans une vraie démarche, quoi, la fripe, pas que financière.
Il y avait cette notion déjà au départ quand tu t'es lancée, ou c'est venu aussi après en pratiquant ?
C'est plutôt venu après quand même, parce qu'au début c'était quand même, ça avait plutôt un aspect financier pour moi de chiner, de m'habiller dans les fripes. Oui, un aspect financier, je dirais aussi un aspect quand même de look, parce que moi j'aimais beaucoup les vieilles fringues. Et pour avoir des vieilles fringues, des vieilles, du vintage, il fallait chiner, quoi. Bon, quand j'habitais à Toulouse, il y avait plein de magasins, évidemment, qui proposaient de la super fringue. Mais après, vers ici, il fallait aller chiner dans les Emmaüs, dans les vide-greniers. Donc c'était d'abord, oui, un aspect financier et par goût aussi. Mmh. Voilà, je chinais par goût. Et puis après, évidemment, je me suis bien aperçue que ça avait un impact aussi sur l'écologie, sur la consommation. Et voilà. Et l'un dans l'autre, eh ben, c'est comme ça qu'il faut faire, je pense.
À chaque fois, tu choisis des lieux précis. Tu n'as jamais de boutique, c'est des points éphémères comme ça. Ça permet de sensibiliser aussi de nouvelles personnes à chaque fois à cette démarche.
Oui, parce qu'en effet, chaque lieu a forcément déjà une clientèle propre, puisque c'est souvent des bars, des restaurants. Après, voilà, je connais aussi Marie, qui fait aussi des vide-dressings de son côté. Elle investit des maisons chez des gens.
Marie, ma mère ?
Oui, Marie, ta mère. Et il n'est pas exclu qu'avec Marie, on fasse quelque chose aussi, parce que d'investir aussi chez un particulier, c'est assez intéressant, parce que les nanas sont dans leur univers, elles sont entre elles, elles sont entre copines, et la démarche est assez sympa aussi. Donc ça peut être un lieu public, mais ça peut aussi être un lieu privé.
Mais il y a autre chose qui se crée.
Complètement. Et je pense que, pardon, le lieu, il fait quand même, le lieu et l'ambiance, ils font beaucoup, quoi. Je pense qu'on vient pour acheter, bien entendu. Moi, c'est mon créneau, bien sûr, la vente, mais je pense que c'est sympa de se retrouver aussi pour une ambiance et pour une envie d'être ensemble, quoi. Voilà.
Il y a 2 ans aussi, avec une amie, vous aviez investi carrément une boutique pendant un temps plus long.
On avait fait, je crois, 1 fois 6 mois, 1 fois 3 mois. Alors, il y avait deux filles qui intervenaient. Une qui avait fait un dépôt vente enfant. Donc elle a arrêté. Elle avait voulu faire un essai. Bon, ça ne lui convenait pas, elle avait arrêté. Et l'autre personne, Nathalie, à l'époque, elle retapait des meubles. Voilà, elle customisait des meubles anciens. Voilà, elle est partie dans autre chose, elle aussi, mais l'union de plusieurs métiers, des nanas qui ont plein d'idées aussi, c'était chouette, ça. Mutualiser, de toute façon, les idées des gens, leur force et leur énergie, c'est toujours positif. Je trouve que seul, souvent, on n'est pas grand-chose. Voilà.
Et donc là, pour cette vente du 19 à Micromega, tu ne seras pas toute seule, ça va être mutualisé une fois de plus.
Encore une fois, alors là aussi, c'est au gré de mes rencontres, c'est une de mes premières clientes qui avait déposé des fringues chez moi pour un premier dépôt-vente, qui, elle, se lance dans le vintage, voilà. Elle a une formation de personal shopper aussi, peut-être elle t'expliquera. Et donc on s'est dit, allez, on y va toutes les deux. Donc on va investir toutes les deux Micromega, moi avec mes fripes, mon dépôt-vente, et elle avec une partie vintage.
Super.
Voilà, c'est super. Une nana pleine d'énergie, en plus qui est très bonne conseillère en images, en relooking et tout. Je pense vraiment qu'elle apportera quelque chose de très intéressant à la soirée. Voilà, il y aura une petite partie restauration, bien sûr les bières de Micromega. Voilà, on passera quelques vinyles. Bon, on va essayer de faire une petite ambiance sympa.
Comme d'habitude.
Voilà, pour le plaisir d'être ensemble surtout.
Merci Tissot.
De rien Margot.
Une mode éthique est-elle possible, page 68, quand les marques se mettent à l'évaluation environnementale ? Le Belge Bruno Pieters est l'un des promoteurs de la démarche d'évaluation environnementale. Avec sa marque Honest Buy, il propose une mode minimaliste, résolument slow fashion et 100% transparente. Tout est inscrit sur l'étiquette, le lieu de fabrication, les impacts écologiques, etc. Stella McCartney, créatrice écologiste au succès mondial, évalue l'impact environnemental de toutes les matières entrant dans le processus de fabrication de ses vêtements. Elle nous apprend ainsi qu'il faut tondre 4 chèvres pour faire un pull en cachemire, ce qui entraîne un désastre écologique dans les steppes de Mongolie du fait de l'élevage intensif. Elle nous apprend également que porter un vêtement 3 mois de plus réduit de 10% son empreinte carbone, soit un impact sur le dérèglement climatique. De quoi venir faire un tour le 19 juin du côté de Saint-Sevé. On rencontrera Nathalie Mora juste après, qui sera avec Cécile Chassagne pour la soirée du 19 à Microméga. Mais en attendant, on écoute ça.
T'es beau parce que t'es courageux de regarder dans le fond des yeux celui qui te défie d'être heureux. T'es beau. Comme un cri silencieux, vaillant comme un métal précieux, qui se bat pour guérir de ses bleus. C'est comme une rengaine, quelques notes à peine, qui force mon cœur, qui force ma joie quand je pense à toi. À présent, j'ai beau me dire qu'au fond c'est mieux, même si c'est encore douloureux. De recoins silencieux, c'est beau parce que c'est orageux. Avec ce temps, je connais peu les mots qui traînent au coin de mes yeux. C'est comme une rengaine, quelques notes en peine qui forcent mon cœur, qui forcent ma joie quand je pense à toi. Toi qui sors de scène, sans armée, sans haine. J'ai peur d'oublier, j'ai peur d'accepter, j'ai peur de vivre à présent.
Bienvenue sur Radio MDM.
Radio MDM.
MDM.
Ah oui, MDM.
Une mode éthique est-elle possible ? Page 59. La mode éthique, de quoi parle-t-on ? La mode éthique, au premier abord, c'est simple. Il s'agit d'opérer selon des valeurs morales, respect des hommes, de la planète et de soi. Ou, pour citer le philosophe Hans Johannes, il faut agir de façon telle que les effets de nos actions ne soient pas destructeurs pour la possibilité future d'une telle vie. Un autre philosophe, Marc Ougnadi, distingue la petite éthique de l'éthique. La petite éthique consisterait à affirmer qu'il est éthique de consommer toujours autant d'eau potable pour fabriquer un t-shirt à partir du moment où on met en place un système de traitement des eaux usées. L'éthique, elle, nous amène à nous poser des questions plus globales. Est-ce bien raisonnable de gaspiller de l'eau pour fabriquer des t-shirts dont la durée de vie n'excédera pas 3 mois ? Comment faire cohabiter pacifiquement plusieurs milliers d'êtres humains avec des ressources limitées en eau ? L'éthique, c'est une nouvelle conscience qui nous fait nous sentir concernés par la vulnérabilité de l'homme et de la planète où que nous soyons. Et si vous voulez être un peu éthique, il vous suffira, pour commencer, de vous rendre du côté de Microméga le 19 juin prochain, puisque Cécile Chassagne-Barada, qui avait pour habitude d'organiser, avant cette époque de confinement, des pots-ventes éphémères, relance sa petite machine et elle sera accompagnée cette fois-ci par Nathalie Mora. Comme c'est la première fois qu'elle passe sur nos ondes, je vais la laisser se présenter et vous dire quelques mots de son activité.
Je suis Nathalie Mora, je suis toulousaine et je suis arrivée donc, il y a 17 ans sur Saint-Sevé. On a repris un garage automobile avec mon mari Et après quelques années passées donc au sein de la gestion de ce garage, j'ai décidé donc de prendre un grand virage, faire un domaine qui me passionne depuis toujours, c'est le prêt-à-porter. Et donc il y a 2 ans, j'ai quitté le garage où je travaillais avec mon mari pour suivre une formation de conseillère en images et personnel chauffeur que j'ai eu. Donc j'ai exercé de temps en temps cette profession, surtout sur Toulouse, où j'ai un réseau assez important. Et depuis le confinement, j'ai réalisé et j'ai analysé le marché du prêt-à-porter, comment il allait évoluer. Et j'en ai conclu en fait que ce qui correspondait en fait à ma personnalité et puis à mon désir futur, c'était choisir quelque chose de responsable et de respectueux envers la nature, hein, tout en gardant quand même le côté esthétique. Donc en fait, je suis revenue à mes premiers amours, le vintage. Voilà. Et donc depuis deux ou trois mois, en fait, je prépare ce projet de vente éphémère dans le vintage.
Alors peut-être que tout le monde n'est pas forcément familier avec le terme personal shopper et conseillère en image. Peut-être que vous pouvez préciser ce que c'est, en quoi ça consiste.
Alors le métier de conseiller en image, c'est une personne en fait qui va analyser la personnalité d'une personne. Ça peut être un homme, une femme, un ado. Et au travers de questionnaires, on va pouvoir définir le style d'une personne, on va pouvoir définir la colorimétrie. La colorimétrie, en fait, ce sont les couleurs qui nous mettent en valeur au niveau du visage. Donc, c'est tout ce qu'on porte, en fait, en haut du corps. On va analyser notre façon... on va analyser la vie quotidienne d'une personne. Et du coup, on va pouvoir la conseiller au niveau vestimentaire. La conseillère en image aussi propose des détox dressing. Elle analyse aussi le dressing d'une personne et elle lui valorise en fait son armoire. Et ensuite, donc la conseillère en image peut être aussi personal shopper, c'est-à-dire qu'elle peut accompagner des personnes lors de leur shopping, tout en valorisant son image et aussi son portefeuille, puisqu'en fait, on va aller à l'essentiel, on va analyser ce qu'elles veulent, et voilà, on va aller à l'essentiel au niveau des achats. Voilà. C'est une profession, en fait, qui commence un peu à émerger en France, mais qui est déjà très, très répandue dans tout ce qui est pays anglo-saxon. Mais la France, voilà, arrive timidement vers cette profession-là, parce qu'en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas superficiel. On va essayer, en fait, de faire des économies dans notre garde-robe, puisqu'en fait, on va essayer de faire acheter des choses qui, effectivement, correspondent à notre style et vont à notre thème. On va essayer d'optimiser tout ça.
Et alors, sur la soirée du 19 juin à Micromega, oui. qu'est-ce que vous prévoyez? Parce que j'ai entendu parler de vintage aussi.
Oui, là, comme je disais, hein, c'est un projet que je prépare depuis des mois. Avoir une boutique fixe, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que j'aime, c'est me déplacer de ville en ville. Et j'ai envie de faire découvrir, en fait, aux femmes, puisque pour l'instant, ce ne sont que des vêtements de femmes, j'ai envie de transmettre quelque chose, c'est-à-dire au travers de vêtements que l'on a connus, hein, des années 70 aux années 80, 90, voire 2000. Et en fait, je veux transmettre quelque chose, c'est-à-dire que ces vêtements-là étaient de meilleure qualité et sont toujours, entre guillemets, à la mode. Peuvent être un levier et c'est aussi un avenir par rapport à la fast fashion qui sévit depuis des années partout. Voilà. Moi, ce que j'ai envie, c'est de transmettre. Voilà. On est dans une ère éco-responsable, donc c'est la transmission. Donc la transmission, ça passe par plein de choses et dans le vêtement, ça passe pour moi, ça passe par le vintage. Donc, ce soir-là, j'aurai un stand avec des vêtements et voilà, donc je raconterai une histoire, puisqu'en fait, tous les vêtements, je connais un peu leur histoire et voilà, je vais essayer d'amener ces personnes qui sont encore un peu sceptiques par rapport à ce milieu, de les amener un peu vers le vintage, mais sans dénigrer les créateurs, les boutiques indépendantes. Je veux juste leur dire qu'il vaut mieux acheter du vintage que du Zara ou du H&M ou d'autres marques.
Nathalie a élaboré sa sélection de vêtements vintage en chinant un peu partout, en récupérant à droite à gauche, chez les grands-mères, les cousines, les tantes, du côté d'Emmaüs où l'on partage, le tout à découvrir le 19 juin au moins.
Oui, le 19 juin et ensuite, voilà, en fait, moi, mon but, c'est de tester dans les Landes, et bon, à Saint-Sever, puisque de toute façon, j'habite à Saint-Sever, voilà, c'est essayer un peu de tester ce marché, comment elles le perçoivent, et pourquoi pas à l'avenir, développer d'autres événements, peut-être à nouveau sur Saint-Sever, si ça marche, avec Cécile, voir sur Mont-Martin aussi, voilà, ce sont des tests. Ensuite, voilà, moi, mon but, c'est de me déplacer de ville en ville et de créer voilà, des événements éphémères axés sur ces périodes-là.
Tout à l'heure, quand vous êtes présentée, vous m'avez parlé d'une reconversion. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes jetée à l'eau, entre guillemets ?
C'est la maturité. Non, c'est se connaître et se dire qu'est-ce qui va m'animer durant les 20 dernières années qui me restent à travailler, entre guillemets. Donc, est-ce que je fais un travail qui ne sera qu'alimentaire ou est-ce que je fais quelque chose qui me corresponde ? Donc, c'est moi, ce secteur-là, c'était quelque chose que j'avais mis en sommeil pendant plus de 10 ans. Et voilà, la vie étant, oui, je n'ai pas pu le mettre en pratique. Et voilà, durant ces 5 dernières années, je me suis donné à fond, j'ai analysé, j'ai réfléchi et je me suis dit, voilà, c'est maintenant que je vais.
Je pense qu'il va y avoir plein de gens après cette période de confinement qui vont avoir un petit peu la même démarche.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis à se dire, voilà, il y a une pandémie qui est arrivée, enfin, pour moi, je l'ai, comme certains, je l'ai bien pris dans le sens où j'ai eu une remise en question, j'ai réfléchi. En me disant je ne veux pas que ça recommence. Pourquoi ? Parce qu'on est jeune, parce qu'on a des enfants qui sont jeunes, parce que non, on n'a pas le droit de faire ça. On peut très bien vivre en harmonie tout en respectant la nature et ceux qui y vivent. Donc c'est passé par quoi ? C'est effectivement passé, pas forcément en étant totalitaire et se dire voilà, je suis l'écolo à fond la caisse. C'est de réfléchir à comment on peut vivre sans surconsommer, parce que cette surconsommation excessive, ça va un temps. Et là, maintenant, je pense qu'on est arrivé au bout de cette pyramide de croissance. Et voilà, maintenant, c'est se dire, sans être en décroissance, se dire comment on va continuer à vivre, mais bien. En privilégiant voilà, travail, famille, amis, nature, voilà. Et moi, effectivement, ça a accéléré le processus de mon projet voilà, dans le vintage, alors que je partais vers autre chose. Mais voilà, je reviens à mes premières amours, que j'avais vécu déjà quand j'étais ado, parce que je m'habillais comme ça, parce que c'était économique pour des étudiants, parce que c'était sympa. Et là, j'ai appris à connaître le milieu en fréquentant des personnes qui ont des boutiques, vintage. Et c'est génial. C'est génial. Voilà, ça correspond vraiment, c'est vraiment ma personnalité. Voilà.
Merci beaucoup, Nathalie.
Mais de rien, Margot.
Une mode éthique est-elle possible ? Page 61. Et la mode durable est responsable ? La mode durable consiste à répondre à nos besoins sans impacter la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Si on applique ce principe à la mode, cela a des incidences à la fois dans le domaine environnemental, social, culturel et économique. Ainsi, faire de la mode durable, c'est faire de la mode qui préserve l'écosystème, la vie de ceux qui travaillent dans ce secteur et leur savoir-faire. La mode responsable, quant à elle, signifie que les entreprises cherchent à garantir les impacts sociaux et environnementaux de tous les aspects de la chaîne de la fabrication à la commercialisation, y compris chez leurs sous-traitants. On parle dans ce cas de responsabilité sociale des entreprises, RSE. Aujourd'hui, certains utilisent aussi le terme de slow fashion, littéralement une mode de lente qui invite à ralentir, produire moins, prendre le temps de créer, de se rencontrer pour partager. C'est une approche nouvelle de la mode, plus qualitative que quantitative.